Amis de YouTube, bonjour, merci d'être là. Vous êtes dans la revue de presse que je fais tous les matins sur Twitch et avec la commu, on s'est dit que parmi toutes les actus du jour, là, que vous pouvez voir dans le sommaire, il pouvait être intéressant de partager cette info sur Rima Hassan, la députée européenne LFI, parce qu'on a beaucoup parlé dans l'actualité de cette élue ces derniers jours, et on a notamment entendu qu'elle était accusée, soupçonnée de consommer de la drogue. Eh bien, on apprend dans Le Parisien ce matin que le volet drogue, le volet stupéfiant, puisqu'elle est poursuivie par ailleurs pour un tweet, est classé sans suite. Et le journal Le Parisien, qui a été un des médias qui ont rapporté cette information selon laquelle il y avait de la drogue dans le sac de Rima Hassan, le journal Le Parisien, fait plus que dire que ce volet stupéfiant est classé sans suite, le journal Le Parisien dit « on a merdé ». Et c'est assez rare pour le souligner qu'un média qui se trompe le dise clairement. Ça n'arrive pas assez souvent à mon goût, et c'est dommage parce que cette transparence, elle honorerait les médias et elle serait de nature, je crois, à renforcer la confiance des Français, des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs avec ces médias. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Affaire Rima Hassan, le volet stupéfiant classé sans suite. Le produit retrouvé dans la valise d'eurodéputé ne pouvait être qualifié de drogue de synthèse. Article de Denis Courtine et Jean-Michel Décugis dans Le Parisien. Il n'y avait pas de drogue dans la valise de Rima Hassan, c'est ce qu'a annoncé ce jeudi son avocat, maître Vincent Brengart. Information confirmée dans la foulée par le parquet de Paris, donc pour ceux qui n'ont pas compris, la justice dit aujourd'hui, il n'y avait pas de drogue dans la valise de Rima Hassan. Le ministère public abandonne donc la poursuite pour détention de stupéfiants qu'il avait initiée pourtant la semaine dernière à l'encontre de la députée européenne insoumise. Cette décision vient mettre un terme définitif à la diffusion depuis plusieurs jours de fausses informations portant gravement atteinte à la réputation de Madame Rima Hassan ainsi qu'à la formation politique LFI à laquelle elle appartient, se réjouit son avocat, son conseil, qui a fait savoir que des plaintes sont à l'étude concernant les médias et personnalités ayant diffusé ces informations. Retour sur cette affaire. Le jeudi 2 avril, convoqué dans les locaux du 2e district de la PJ, la police judiciaire, la députée insoumise est aussitôt placée en garde à vue pour apologie du terrorisme, parce qu'elle est convoquée pour un tweet, pour ceux qui connaissent l'histoire, qu'elle a envoyé le 26 mars. La garde à vue est révélée dans nos colonnes, donc du Parisien, et confirmée par toute la presse. Comme du reste, quelques heures plus tard, l'ajout d'une autre infraction par le parquet de Paris, sa détention de stupéfiants. Sur quelle base ? Les policiers ont en effet trouvé dans la valise de Rima Hassan deux produits suspects. L'un ne pose pas vraiment de problème, c'est du CBD. Alors certes, le taux de THC se révélera très légèrement supérieur à la norme autorisée. Nous ne l'avons même pas évoqué, dit le Parisien. Concernant l'autre produit, en revanche, nous avons écrit, donc le Parisien dit, nous avons écrit qu'il s'agissait de drogue de synthèse, ce qui était faux. Alors vous en pensez ce que vous voulez, mais un média qui, noir sur blanc, dit « ben on a merdé », c'est très rare. Pourquoi l'avoir écrit alors ? Car le test pratiqué lors de la garde à vue était positif à la catinone de synthèse, principe actif d'un grand nombre de drogues, justement de synthèse. Le soir même, après avoir attendu la fin de la garde à vue, le parquet de Paris était même plus précis en parlant de 3 MMC, drogues à base de catinone de synthèse. La fouille des effets de Rima Hassan a révélé la présence de matières s'apparentant d'une part à du CBD, qui n'est pas illégal en France, vous le savez, et d'autre part de la 3 MMC sur lesquelles elle a été interrogée, annonçant ainsi par communiqué de presse le ministère public. Ces éléments sont disjoints et feront l'objet d'une procédure distincte. Cette précision étonnait l'expert que nous avions contacté, dit le Parisien. Pour lui, il était peu probable de pouvoir déterminer aussi rapidement de quelle drogue il s'agissait, entre la 3MMC, la 2, etc. Et ça, quelqu'un dans le chat nous l'avait dit, ça, en disant c'est impossible, on peut pas le déterminer aussi rapidement. Quelqu'un nous l'avait dit dans le chat quand il y a quelques jours on avait parlé de ça. C'est pour cette raison que nous avions seulement parlé de catinone de synthèse. Prudence insuffisante, dit le Parisien, car le test pratiqué lors d'un placement en garde à vue n'est qu'un test d'orientation, nous explique le même expert que nous avons contacté ce jeudi. En gros, le Parisien a trouvé un expert qui leur a expliqué pourquoi ils se sont trompés et pourquoi ils n'auraient pas dû écrire aussi vite et rapporter une fausse information en voulant aller trop vite. C'est un peu comme lorsque vous faites un alcotest lors d'un contrôle routier, explique cet expert. Il y a un premier test qui vous dit si vous êtes positif ou pas, mais il n'est pas complètement fiable et il y a une marge d'erreur et il faut des analyses plus poussées pour être catégorique. Le parquet, seule autorité habilitée à faire une communication légale, s'est tu pendant toute la garde à vue malgré nos sollicitations. Il a annoncé qu'il ouvrait une enquête du chef de violation du secret de l'enquête et de souligner la peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros que nous encourons. Le Parisien, qui dit là on peut être condamné. Quant à Rima Hassan, elle est convoquée au tribunal le 7 juillet, cette fois pour le tweet, pour apologie de terrorisme. Voilà. Voilà pour l'histoire. Quelqu'un me dit, c'est pas tellement le Parisien qui doit être blâmé, c'est le parquet. Alors, quand on lit l'article du Parisien, c'est pas tout à fait ça. Il semblerait à un moment qu'il y a eu des fuites. D'ailleurs, la fuite a été identifiée, je crois. Donc, il y a eu des fuites venant du milieu judiciaire, vers certains médias, donc une source, comme on dit. Si ma mémoire est bonne, d'après ce que j'ai lu, parlons avec beaucoup de prudence, mais un magistrat qui a fait fuiter l'information selon laquelle il y avait de la drogue qui a été retrouvée dans les affaires personnelles de Rima Hassan. L'erreur journalistique ici, elle est de faire confiance à cette source et de ne pas attendre, par exemple, la confirmation de cette information quelques heures ou quelques jours plus tard, ou la confirmation officielle par exemple, ou alors la confirmation par une deuxième, une troisième source. Il y a fuite du secret de l'instruction, hein, ce qui est interdit, ce qui est illégal. Il y a publication, peut-être sans vérification suffisante. Par exemple, Le Parisien nous dit clairement dans cet article que s'ils avaient parlé plus tôt à cet expert contacté jeudi, nous sommes vendredi, ben l'expert leur aurait dit ben non, c'est pas possible, on peut pas avoir ces résultats si vite. Voilà. Donc il y a précipitation, il y a erreur, et il y a un média qui dit ben là on a merdé. Je dis souvent, je radote un petit peu, c'est à cause de mon grand âge, que un des ennemis principaux de la qualité de l'information, c'est la précipitation. C'est la précipitation. Plus un média veut aller vite, plus il prend le risque de se tromper. Voilà. Et Internet et les chaînes info ont accéléré le temps de l'info. Avant, vous aviez un JT par jour, vous aviez un journal qui sortait tous les jours, vous aviez 24 heures entre les deux, et les journalistes avaient un petit peu de temps pour faire leur métier. Aujourd'hui, il y a une course à la rapidité qui fait que chaque média veut être le premier à sortir une info. Ça crée du trafic, ça crée du clic. Vous-même, si vous êtes consacré à... Si on vous montre 10 sites Internet de 10 médias, si on a un qui vous dit... Rima Hassan a de la drogue dans son sac et les neufs qu'on parle pas, eh ben c'est humain. C'est voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. On va cliquer sur le site qui vous dit que Rima Hassan a de la drogue. Voilà. Et cette course à l'audience et cette course à la rapidité, elle provoque ça. Quand on veut aller trop vite, on se trompe. Parfois. Ce qui est très rare, par contre, c'est qu'un média le reconnaisse. Et ça, pour lire les journaux et vivre dans cet univers depuis très longtemps, c'est très rare. C'est pour ça que je vous lis cet article du Parisien. Ce qui n'excuse pas l'erreur, hein. Mais... c'est très très rare. Pourquoi les médias n'emploient pas le conditionnel au moins parisienne par exemple? Mais ils devraient le faire, t'as raison, ils devraient le faire. À la une écrit, c'est pas qu'une question de précipitation, il y a aussi une intention politique derrière. Si tu penses que Le Parisien est en croisade contre LFI, moi j'ai pas d'informations en ce sens. Tu as peut-être des éléments pour nous le démontrer. Mais ne sombrons pas dans la même erreur que les médias qui font des erreurs, c'est-à-dire affirmer des choses sans avoir de preuves, de sources pour le dire. Si tu penses que Le Parisien est engagé dans une croisade anti-LFI, c'est intéressant, mais il va falloir le prouver. Comme les médias doivent prouver aussi les informations qu'ils mettent en avant. Defecator nous le dit, hélas, une étude en 2018 avait mesuré que sur les réseaux sociaux, les démentis se diffusent six fois moins que la désinformation initiale. Ouais, c'est pour ça que je vous ai mis cet article en avant, justement, parce que je voulais qu'on en parle. Je vous ai donné cet exemple personnel il n'y a pas longtemps, dans les nombreux tweets pas très sympathiques qui ont pu me cibler ces derniers temps. Un internaute a dit je ne sais plus quoi sur je ne sais plus quelle affaire, en m'accusant à tort de quelque chose. Ce tweet a été liké par des milliers de personnes. Quelques jours plus tard, cette même personne, ce même compte, pour une raison que j'ignore, fait un deuxième tweet en disant « Bah, excusez-moi, je me suis trompé, j'avais pas compris l'info, et voilà ce qui s'est passé réellement. » Voilà, ce qui est rarissime aussi sur Internet, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de ce monsieur. Ce deuxième tweet de la même personne sur le même compte a été liké par genre 10 personnes. Plusieurs milliers de likes sur la fausse information, le même compte, la même personne, le même système, 10 likes. C'est pas la vérité qui intéresse les gens, c'est le scandale. Effectivement, le combat est un peu compliqué du coup. Sans doute à cause de l'algo, effectivement. Après, vous connaissez mon regard sur les journaux. Là, par exemple, je souligne une faillite et une erreur, pour le coup reconnue par Le Parisien. Ces journaux sont imparfaits. On a une preuve sous les yeux. Un journal comme Le Parisien, Figaro, La Croix, Le Monde, Libération, il y a des rédactions de plusieurs centaines de personnes à chaque fois. Donc, des moyens importants de gens passionnés par leur métier, des hommes, des femmes, qui essayent de nous informer de la façon la plus qualitative possible, avec le plus de rigueur et d'honnêteté intellectuelle possible. Avec plus ou moins d'honnêteté intellectuelle, ça dépend bien sûr. Il y a des médias qui sont engagés, il y a des médias qui ont des lignes éditoriales, il y a des médias qui ne se cachent pas de privilégier certaines valeurs, ils ne s'en cachent pas, je parle de la presse écrite. Parfois ils font bien leur métier, parfois ils font moins bien leur métier. Les sources d'information aujourd'hui, elles sont multiples, elles ont explosé. Avant on n'avait que la presse écrite, et puis la radio est apparue, et puis télévision, et puis il y a eu la multiplication des chaînes, et puis il y a eu Internet, et aujourd'hui tout le monde est journaliste. En tout cas tout le monde peut être émetteur d'infos. Tout le monde peut, sur ses réseaux, sur son Insta, son X, son TikTok, peut, s'il le veut, mettre une info en avant. Et vous avez des citoyens sur Internet qui émettent des informations qui parfois ont un énorme retentissement. Comment s'y retrouver aujourd'hui dans toutes ces sources d'informations? C'est une mission quasi impossible. Dans cette jungle de la production d'informations, moi j'ai la faiblesse de croire qu'il y a certains médias traditionnels comme les journaux de presse écrite que je lis, qui ne sont pas parfaits, qui sont faillibles, qui ont leurs biais conscients ou inconscients, qui font des erreurs, comme ici le Parisien. Mais derrière, il y a une histoire, un passé de plusieurs dizaines d'années de travail, des rédactions, des collectifs, des vérifications, des chaînes de vérification qui parfois ne marchent pas, la preuve, mais au moins vous savez qui vous parle. Par exemple, si vous allez voir l'article, on peut faire l'exercice, si vous voulez aller voir l'article du Parisien qui a donné la mauvaise information, là, vous allez avoir une signature en bas de cet article. Et le Parisien peut être poursuivi. C'est le directeur de la publication du Parisien qui peut être poursuivi en justice si Rima Hassan, par exemple, engage des poursuites. Un journal, c'est déjà un émetteur d'infos identifié. Vous savez d'où ça vient, vous connaissez le nom du journaliste, hein, et si besoin, vous savez qui poursuivre. Et il y a une chaîne de production derrière qui essaye de tendre à l'honnêteté et à la rigueur et qui parfois n'y arrive pas, mais qui essaye. Au moins, vous savez d'où vient l'info. Je préfère cette source-là à une info qui pop un moment sur Internet dont je ne sais pas qui est derrière. Alors, moi, je suis pour le pseudonymat, parce qu'il faut protéger la liberté d'expression de chacun. Mais le problème du pseudonymat, c'est je ne sais pas qui me parle, voilà. Je ne sais pas si cette info est vérifiée, je ne sais pas si c'est un travail collectif avec des personnes qui ont... S'il y a eu plusieurs personnes pour travailler sur l'info, parce que plus vous êtes nombreux à travailler sur une info, plus il y a de garde-fous pour vérifier qu'une info est vraie ou fausse. Donc, je ne sais pas comment c'est fabriqué. D'où cette méfiance de base, et qui fait que... J'ai tendance à privilégier ces médias dits traditionnels qui, par ailleurs, entre eux ne sont pas d'accord, ont des lignes éditoriales différentes, et j'ai la faiblesse de croire que quand je lis sur un même sujet un article de l'Humanité, du Figaro, de la Croix et du Parisien, les différents éclairages font que, par ce travail de recoupement, de mise en perspective, on va s'approcher d'une info la moins erronée possible, quoi. Allons voir l'article du Parisien, si vous voulez. On peut faire cet exercice qui date, je crois, de jeudi. Donc, je télécharge le Parisien du 3 avril. Okay. Voilà. Effectivement, il y a l'appel de une sur Rima Hassan. Donc l'appel de une, c'est l'info est à la une, il n'y a pas l'article, mais on a Rima Hassan en garde à vue. Bon, ça parle pas de drogue, mais on a l'info qu'elle est en garde à vue. On va page 6, on a donc un article qui fait toute la page. Voilà. Qu'est-ce que vient foutre l'article sur Bompard là ? Ah oui, sur LFI, d'accord, ok. C'est un article très très court. Voilà, c'est un article très très court, il y a deux petites colonnes, mais il prend toute la plage avec la photo. Et que dit l'article ? Rima Hassan dans la tourmente, quelques grammes de drogue de synthèse ont été retrouvés ce jeudi matin dans le sac de la députée européenne. Il n'y a pas de conditionnel. Il y aurait dû y avoir un conditionnel, il n'y a pas de conditionnel. Ont été retrouvés, c'est un indicatif. Ce n'est pas selon, hein, c'est une affirmation. Voilà, et là c'est une erreur, un manque de rigueur dans le truc. C'est pas « aurait été retrouvé » et en sourçant une source, c'est « a été retrouvé ». Peut-être que l'article d'ailleurs prend un peu plus de précautions, mais là dans le titre, il n'y a pas de précautions. Si on rentre dans l'article, ce qui était inattendu, c'était donc la présence d'un produit stupéfiant dans les effets personnels de l'élu. Il s'agirait, là il y a un conditionnel, de près de 2 grammes de drogue. La fouille des effets de Rima Hassan a révélé la présence de matières s'apparentant d'une part à du CBD et d'autre part à la 3-MMC, utilisée notamment dans le cas du chemsex. Voilà. S'apparentant, vous voyez, déjà, il y a plus de précautions déjà. Difficile d'être catégorique aussi rapidement, nous a expliqué un expert. Les drogues à base de catinone sont utilisées plus globalement dans un cadre festif. Elles favorisent le rapprochement physique. Les infos, il y en a très peu, hein, vous voyez. Le problème, c'est que là, on a un conditionnel. C'est là où il y a un problème. Il y a un conditionnel dans l'article. Il s'agirait de près de 2 grammes de drogue, mais ce conditionnel n'est pas présent dans le sous-titre ici. Quelques grammes de drogue de synthèse ont été retrouvés ce jeudi matin. Après, on a un autre souci dont je vous ai déjà parlé. Dans les journaux, les titres, la plupart du temps, ne sont pas écrits par les journalistes. Donc, le titre de cet article n'a pas été écrit par Denis Courtine, Pierre Moret et Jean-Michel Descugis. Et ça, c'est un vrai problème. C'est que dans la plupart des journaux, il y a les journalistes qui écrivent leur article et après, il y a des gens qui passent derrière, des secrétaires de rédaction ou la rédaction en chef, qui font le titre. Et on essaye de faire des titres un peu incitatifs, qui vont donner envie de lire l'article. Et le conditionnel qui est là dans l'article, eh bien, il n'est pas là dans le titre. Et ça, je l'ai déjà dénoncé. Vous avez parfois des articles qui sont sur le fond sans reproche possible, et vous avez un titre putaclic, disons-le, un titre de merde, qui va vous donner envie de lire l'article parce qu'il est un petit peu, un peu shiny, et c'est du clickbait, quoi. Et c'est un enfer, en fait. Parce que il y a des gens qui lisent que les titres, parce qu'il y a des gens... même moi, quand je lis un journal, je lis pas tous les articles. Je lis les articles qui m'intéressent. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Vous voyez, par exemple, là, dans l'article, il y a de la prudence, il y a du conditionnel, mais il n'y en a pas dans le titre. Voilà, bon, je m'arrête sur ça, mais tout ça pour vous dire que on pourrait avoir tendance à penser que derrière tout ça, il peut y avoir de la manipulation, une intention politique, par exemple avec une croisade anti-LFI. On peut aussi se dire qu'à un moment, il y a des gens qui font pas bien leur travail. Je pense que vous avez compris mon propos. Mais en tout cas, je voulais vous mettre cet article en avant dans la revue de presse pour que vous compreniez qu'une info, quand on la reçoit, il faut aussi savoir la remettre en cause. Un député UDR, dont j'ai étudié le travail récemment de façon approfondie, a pu émettre un nombre impressionnant de fausses informations, de fake news, de mensonges sur ses réseaux sociaux ces dernières semaines, ces derniers mois. Doucement, progressivement, jour après jour, tout ça est en train d'être débunké. Et beaucoup de voix se sont élevées, y compris au sein de... Je crois que c'est dans une commission parlementaire, donc de sa commission, pour dénoncer... les erreurs et les mensonges de cette personne, mais combien de personnes qui auront vu les tweets de cette personne vont rester sur la première info et pas sur les démentis. Le mal est fait. On est confronté à ce défi aujourd'hui. Quel crédit apporter à une information? Pourquoi lui le croire? Pourquoi lui ne pas le croire? Voilà. C'est un vrai sujet. C'est ce défi que nous devons relever en tant que citoyens qui sommes à la recherche d'une information de qualité.